présentiel. C'est un nouveau mot pour moi, donc c'est pour être présent dimanche. Sur ce, on va tout simplement prier. Je reviens un peu en arrière pour savoir qui je vais devoir saluer tout à l'heure si on a un peu de temps. Donc voilà. Donc on va prier et puis on commence notre étude pour ce matin. Alors Seigneur, nous te bénissons pour cette nouvelle journée qui débute, pour cette occasion d'arrêter nos activités, de prendre un temps à part dans ta présence pour méditer, pour recevoir de toi des instructions et pour recevoir surtout, Seigneur, un enseignement qui permet de modifier, d'altérer, de transformer nos vies. Alors Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi en te demandant simplement d'agir, de parler et de faire ce qui doit être fait dans nos vies. Tu vois les changements, les transformations que toi tu désires et nous ne voulons en aucun cas, Seigneur, nous opposer à ta volonté. Alors ce matin, bénis-nous par ta présence, bénis-nous par ton onction, bénis-nous par ta parole, bénis-nous aussi, Seigneur, par une transformation de nos vies. Merci de prendre encore le temps pour nous. Merci de ne pas être passé à autre chose, de ne pas avoir fermé le livre, de ne pas avoir tourné la page, mais d'être encore là avec ce désir de nous changer, de nous transformer et de nous amener à être les hommes, les femmes, les serviteurs, les servantes, les fils, les filles que tu désires que nous soyons. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère ce matin et qu'en toute chose que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, le passage aujourd'hui reste le même dans Jean au chapitre 6, les versets 68 et 69. On est rendu dans l'étude du verset 69, mais comme c'est un tout pour cette semaine, on va prendre le temps de relire et de faire un petit résumé de ce que nous aurions pu voir d'important depuis deux ou trois jours. Alors Jean, chapitre 6, le verset 68, nous dit « Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Saint de Dieu. » Je répète, « Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Saint de Dieu. Seigneur, à qui irions-nous? C'est ce que nous avons vu lundi. Et le terme qui était important, c'est le terme « aller », une fois conjugué, « à qui irions-nous? » Et c'était le verbe grec « apercomai » qui voulait dire « s'éloigner de quelqu'un » mais dans le but de s'approcher d'un autre. Et quand Pierre va répondre à Jésus, qui l'interroge simplement à savoir si lui et les 11 autres n'ont pas le désir de le quitter comme les autres disciples ou plusieurs autres disciples l'ont préalablement fait, Pierre va dire, « Seigneur, ça nous servirait à rien de partir parce que on ne saurait même pas vers qui aller. » Et en fait, il n'existe personne d'autre vers qui il serait approprié de nous approcher. Et c'était une interrogation pour toi et pour moi, à savoir, est-ce qu'effectivement tu comprends auprès de qui tu t'es approché? Est-ce que tu comprends à quel point il est important d'être lié à ce Jésus et à ce Seigneur? Mardi, on a vu que Pierre continuait sa réponse en disant « Seigneur, mais à qui irions-nous? Puisque de toute manière, tu es le seul, tu es l'unique possesseur des paroles de la vie éternelle. Non seulement es-tu possesseur des paroles de la vie éternelle, mais tu es possesseur et l'unique possesseur de toutes les paroles de la vie éternelle. » Donc les paroles qui sont immuables, de par l'époque, le temps ou les générations qui se succèdent, mais aussi le détenteur des seules et uniques paroles qui nous amènent vers le salut et vers la vie éternelle. Et hier, nous avons vu le terme « croire » lorsque Pierre va dire « et nous avons cru ». Et on a vu que le terme « pisteio », pisteio qui s'apparente au terme foi en grec, qui est pistis. Mais pisteio, ici croire, on nous parlait d'une conviction, une conviction profonde, une conviction ultime, qui est non pas un essai, mais quelque chose de ferme. C'est pas un essai tentatif que nous faisons en nous approchant de Dieu, mais ça, c'est le fruit d'une conviction qui se veut ferme, définitive, pleine, qui provoque un engagement de notre part, un engagement à suivre Jésus, et un engagement, quel que soit le coût que pourrait revêtir notre communion et notre association avec Jésus, que c'est un engagement à l'action et non pas simplement à l'observation. On sait que la vie est remplie de badauds, la vie est remplie de spectateurs, mais lorsque nous vivons pour Christ, nous ne sommes pas appelés à être des spectateurs de ce qui se passe, mais à être des acteurs, des personnes qui sont partie prenante de l'action et partie prenante de l'œuvre de Dieu. Et enfin, une conviction qui transforme totalement notre vie. Une conviction qui vient à changer les bases, les affinités, les passions qui sont les nôtres, pour les convertir, pour les transformer selon le cœur et la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons avec cette prochaine partie qui, après avoir expliqué « Et nous, nous avons cru », maintenant c'est « Nous avons connu ». Nous avons connu qui vient du terme grec ginoskos, qui parle d'un commencement, qui parle d'un début, qui parle du début d'un processus, qui parle d'une transformation dans la vie de quelqu'un. Ça s'apparente à la notion de nouvelle naissance que Jésus va expliquer toujours dans Jean au chapitre 3, dans sa conversation avec Nicodème. Il va lui dire que un homme qui veut s'approcher de Dieu, un homme qui veut suivre Jésus, doit nécessairement naître de nouveau. Alors ce processus de recommencement, de commencement à neuf de la vie lorsque nous venons auprès du Seigneur. Et aujourd'hui, on va prendre cette déclinaison, sept mots avec des connotations différentes qui pourraient s'apparenter ou qui seraient inclus dans la notion de connaître selon la parole de Dieu. Le verbe connaître, lorsqu'on parle dans le français courant, c'est le fait de savoir une chose. Lorsqu'on parle dans le langage de tous les jours, c'est le fait tout simplement d'avoir une certaine connaissance à propos d'un sujet, d'une personne ou d'une situation quelconque. Mais dans la parole de Dieu, lorsqu'on utilise le terme ginosko, on va un peu plus loin dans la définition même de connaître. Et aujourd'hui, on va prendre donc sept mots différents pour essayer d'illustrer un peu plus ce que ça implique de connaître Jésus. Alors, premier terme qui vient de base, c'est le verbe, c'est la notion de connaissance intellectuelle qui vient par apprentissage. Premier terme parallèle à connaître, donc le terme apprentissage. Nous ne connaissons pas Dieu parfaitement à notre naissance. En fait, à notre naissance, nous sommes déjà pécheurs de par notre nature, nous sommes déjà séparés de Dieu par notre péché, et alors que nous grandissons, alors que l'on croit, alors qu'on se met à croître et à croire, nous devons apprendre à connaître notre Seigneur. Et le jour où nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons pas dire que à partir de ce jour-là, la science nous est infuse, que nous connaissons totalement et complètement. Paul va dire même que actuellement, nous connaissons et nous comprenons de façon partielle, de façon ombragée, mais que le seul jour où nous connaîtrons parfaitement notre Seigneur, c'est lorsque nous serons avec lui face à face pour l'éternité et dans l'éternité. Mais d'ici là, nous sommes dans ce processus d'apprentissage. Et c'est intéressant de savoir que le Seigneur lui-même nous dit « Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent ». Donc Dieu se laisse connaître par ceux qui le cherchent. Oui, Dieu se révèle à nous. Et c'est vrai que c'est Dieu qui nous aborde et c'est Dieu qui vient vers nous. Mais de surcroît au fait que Dieu, à prime abord, se présente à nous, de surcroît à cela, il y a aussi un travail du croyant quant à approfondir sa connaissance du Seigneur. Voilà pourquoi il est important d'étudier sa parole. Voilà pourquoi il est important, dans une hygiène de vie spirituelle tout à fait de base, il est important d'avoir des temps d'étude, de mémorisation de sa parole, d'apprentissage de sa parole, d'études personnelles, mais aussi de recevoir un enseignement de la part d'aînés dans la foi, d'hommes ou de femmes que Dieu place autour de nous pour nous enseigner. Donc, il est important de savoir que Dieu veut se faire découvrir par toi. Et plus tu avances avec le Seigneur, plus tu devrais comprendre que ta connaissance, en fait, elle est petite. Il y a plusieurs années, je suis allé dans une conférence avec des hommes assez huppés au niveau de l'Église internationale, des gens qui avaient beaucoup d'expérience, qui étaient reconnus et qui avaient des années et des années de ministère. Et la chose qui me marquait de la plupart de ces gens-là, c'était l'humilité qu'il y avait quant à exposer ce qu'ils connaissaient et quant au fait que ils tenaient à ce qu'on comprenne que même si nous étions maintenant partie prenante du ministère, que même si maintenant on pouvait nous affubler de quelques titres que ce soit, pasteur ou autre, que nous devions rester au pied du Seigneur comme des étudiants et des élèves. Et c'est une notion que j'ai non seulement reçue, mais que j'ai embrassée. Je suis moi-même un étudiant de la parole de Dieu, même si j'enseigne et même si Dieu me donne la grâce d'être utilisé dans ce domaine-là auprès de son peuple, je reste moi-même un étudiant de la parole de Dieu et je reste moi-même un étudiant de Dieu. J'apprends de Dieu à tous les jours. Et la chose qui me revient constamment, c'est que je comprends tellement peu combien grand est Dieu. Je réalise tellement peu combien il est merveilleux, combien il est puissant. Et je vois les limites de mes connaissances. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il me permet encore aujourd'hui, avec des quelques décennies d'expérience, d'apprendre encore aujourd'hui et d'être à ses pieds comme un étudiant, comme un disciple auprès de son maître pour recevoir de lui. Donc, sache que tu es dans un processus constant, permanent d'apprentissage de Dieu et il est de ta responsabilité de prendre le temps, de fournir l'effort nécessaire, de faire les tâches nécessaires pour mieux étudier le Seigneur, pour mieux étudier sa parole et apprendre à le connaître davantage. Donc, première chose avec le verbe connaître, c'est le parallèle avec l'apprentissage. Par rapport à connaître, puisqu'ici, il parle au passé, nous avons connu. Ici, connaître va prendre cette tangente ou cette connotation d'expérimentation. Donc, non seulement tu es dans un apprentissage constant de Dieu, un apprentissage constant de sa parole, mais tu es aussi, lorsque tu es venu à Christ, entré dans un processus constant et permanent d'expérimentation du Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce processus d'expérimentation n'arrivera jamais à une fin tant que tu seras ici-bas sur terre. Je le disais il y a quelques instants, nous ne connaîtrons parfaitement, nous ne saisirons parfaitement que lorsque nous serons là-haut avec lui pour l'éternité. Mais d'ici là, toi et moi, nous sommes dans ce processus aussi où nous passons par des expériences avec le Seigneur. Parfois des expériences qui sont glorieuses et qui sont réjouissantes, qui sont exaltantes, où on voit Dieu se manifester avec gloire et avec splendeur, mais parfois aussi des expérimentations relativement douloureuses, relativement difficiles, où nous apprenons à voir la provision de Dieu dans des moments difficiles. La provision la providence divine n'est manifeste dans nos vies que si nous avons l'absence de quelque chose. La présence de Dieu se manifeste, la présence de Dieu se fait sentir surtout lorsque nous avons expérimenté l'absence d'une chose. La grâce de Dieu se manifeste lorsque le péché a abondé. La provision, la bénédiction, le fait que Dieu répande une certaine chose sur nous, on s'en rend compte et on l'apprécie lorsqu'on est passé par un certain moment de disette. C'est un peu comme un bon plat. Un bon plat va s'apprécier encore plus si préalablement j'ai manifesté de la faim. Mais si pendant toute la journée, je n'ai fait que grignoter, même si j'arrive à la fin de la journée et on me présente un plat somptueux, parce que j'ai mangé tout au long de la journée, ben j'ai une certaine satiété qui s'est installée et qui fait que je ne vais pas apprécier pleinement le gâteau ou le repas qu'on va me servir. Mais si j'ai été dans une période de jeûne, et pour certains c'est tout simplement quelques heures, si vous avez été privé de nourriture pendant quelques heures, il y en a certains qui peuvent pas supporter plus que quelques heures, et lorsque le repas arrive, ben on dirait que c'est le repas ultime, le meilleur repas qui vous ait jamais été présenté, qu'on vous présente tout simplement parce que vous avez manifesté une faim. Avec le Seigneur, c'est un peu la même chose. Parfois, on passe par des moments un peu plus difficiles. Vous savez, mon expérience personnelle avec la maladie, vous savez quels ont été les diagnostics et les traitements et les opérations qui ont été les miennes pendant un certain temps dans les dernières années. Pour faire très bref, j'ai eu un cancer de stade 4 de l'œsophage où on voyait peu d'espoir pour moi. Mais ces moments difficiles ont en fait été pour moi l'occasion d'expérimenter la présence de Dieu comme jamais auparavant. Je disais aux gens qui m'entouraient et qui priaient pour moi, vous savez, je n'échangerai pas ma place avec qui que ce soit parce que pour une toute première fois de toute ma vie, j'ai la certitude d'être exactement là où Dieu me veut et je sens la présence de Dieu comme jamais auparavant. Alors parfois, ces moments difficiles sont aussi une source pour nous d'apprentissage de la présence, de la fidélité, de la grâce, de la bonté et de l'amour incommensurable de notre Seigneur. Donc, apprentissage pour connaître, mais aussi expérimentation. De surcroît à cela, on va aussi avoir le terme compréhension. Nous avons connu, nous avons compris Dieu. Pas totalement, pas parfaitement, mais mieux qu'à la première journée où nous l'avons connu. Mieux que la première journée où on s'est approché de lui. Petit à petit, le Seigneur nous change, nous transforme. Petit à petit, il révèle ses plans, sa volonté. On apprend à connaître ce qui plaît à Dieu, de ce qui lui déplaît, que ce soit à travers nos études, à travers notre lecture de la parole de Dieu, et aussi en tout simplement en fréquentant le Seigneur, en étant dans sa présence plus souvent, en étant dans sa présence plus constamment, on va dire, on apprend à connaître notre Seigneur. Aujourd'hui, ça fait, faut pas que je me trompe, ça fait 28 ans que mon épouse et moi, du moins ça va faire 28 ans au mois de décembre que mon épouse et moi nous sommes mariés. Je la connais nettement mieux aujourd'hui que dans les premiers temps de notre fréquentation. Je la connais beaucoup mieux aujourd'hui que lorsqu'on a commencé à se fréquenter en 89. Je sais ce qui lui plaît, je sais ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Je sais ce que je fais qui lui déplaît, mais je sais aussi lorsque je fais certains efforts dans tel ou tel domaine qui peut l'émouvoir et lui plaire davantage. Et de son côté, c'est la même chose. Elle sait ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Elle sait ce qui me fait plaisir et ce qui me déplaît aussi par rapport à des actions ou des paroles ou des activités qu'on pourrait avoir. Donc, plus on passe du temps avec une personne, plus on apprend à connaître cette personne et mieux on est placé pour satisfaire les attentes et pour plaire à cette personne. Et il en est de même avec le Seigneur. Plus nous passons du temps avec le Seigneur, plus nous apprenons à le connaître et plus nous savons aussi ce qui lui plaît de ce qui lui déplaît. Contrairement au Seigneur qui a la science infuse, qui connaît toutes choses depuis toujours et avant même que toi et moi nous n'ayons existé, il nous connaissait déjà parfaitement. Mais contrairement à lui, nous sommes dans ce processus et nous avons besoin d'apprendre à le connaître, donc d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'il est. Donc apprentissage, expérimentation, une meilleure compréhension de Dieu, mais aussi une meilleure perception du Seigneur. Et nous avons connu dans le sens perception. Ici, je vais l'illustrer avec un cas très simple. Vous savez, les premiers temps où vous fréquentez quelqu'un, que ce soit un ami ou que ce soit un amoureux, une amoureuse, vous appelez la personne au téléphone et vous avez besoin de dire « Allô, c'est moi ». Parfois, vous avez même besoin de dire « Bonjour, c'est Florent ». Mais à un moment donné, simplement « Allô, c'est moi », ces simples trois ou quatre mots font en sorte que la personne vous reconnaît. Mais de surcroît à cela, à un moment donné, vous pouvez appeler et simplement votre respiration au bout de la ligne fait en sorte que la personne qui vous entend sait que vous êtes Florent. Et c'est la même chose avec le Seigneur. On finit par percevoir le Seigneur. On finit par percevoir lorsque le Seigneur est en train de se satisfaire de ce qui se passe et lorsque le Seigneur n'est pas en train d'être satisfait de ce que nous faisons. Nous venons avoir une perception de sa présence, de sa volonté, de ses désirs, au même titre où on apprend à connaître un époux ou une épouse, mais au même titre, lorsqu'on est près du Seigneur, on apprend aussi à percevoir la présence de Dieu. Parce que faut pas se leurrer, faut pas tomber dans une fausseté de croire que nous sommes de façon infuse, lorsque nous venons au Seigneur, que nous sommes à même de percevoir sa présence. Non, parce que le diable va se présenter, et des fois il va se présenter avec une certaine prestance, avec une certaine allure, avec une certaine façon de faire, qui va venir nous tromper. C'est un esprit trompeur et régulièrement, il va vouloir imiter la présence de Dieu, il va vouloir imiter l'esprit de Dieu. Et voilà pourquoi il est important de passer du temps à la recherche de la face de Dieu et du temps dans la présence de Dieu pour être capable au moment opportun de différencier ce qui est de la présence de Dieu, ce qui est plutôt la présence de l'ennemi, ce qui sont nos émotions pures, de ce qui est vraiment une perception réelle de la présence de Dieu. Et soyons clairs, la présence de Dieu et la perception de la présence de Dieu n'est pas une émotion en soi. Par contre, la présence de Dieu, comme nous sommes des êtres sensibles, comme nous sommes des êtres remplis de sens, eh bien ces sens-là sont émus par la présence de Dieu. Lorsque parfois il nous arrive d'être dans la prière et d'avoir ce trémolo dans la voix parce que on comprend qui est autour de nous. Parfois on va être là et je parlais dimanche que si Dieu se présentait face à face devant moi, moi ma première réaction ça serait de m'aplatir au sol, de m'écraser au sol. Ça serait les émotions qu'il y a en moi qui fait que je me dis regarde Florent, écrase-toi au sol parce que t'es même pas digne de lever le regard sur le bout des pieds de Jésus. Mais ça, c'est des émotions qui sont suscitées par la présence même de Dieu. Mais parfois, tu es dans la prière et tu sens effectivement, regarde, il faut que je m'écrase sur le sol parce que je sais que le Seigneur est présent là. Parfois, tu es dans la prière et tu sens une dose de foi, une dose de puissance, une dose de conviction qui s'empare de toi et on dirait que tu es capable effectivement de dire à une montagne de se prendre et de se jeter dans la mer. Tu as une autorité qui s'empare de toi, mais cette autorité-là vient du fait que tu perçois que la présence de Dieu Et là, régulièrement, je suis tout seul devant ma caméra et je vous parle et je m'emporte avec ce que je suis en train de vous dire parce que je sais que Dieu est déjà en train de travailler dans les cœurs et que je perçois que Dieu est en train de faire quelque chose. Donc oui, il y a un apprentissage, une expérimentation, une compréhension et il y a aussi une meilleure perception de Dieu. Lorsqu'on dit que nous avons connu, nous sommes amenés à percevoir la présence de Dieu. Maintenant, on va passer dans deux thèmes qui sont compréhensibles simplement lorsqu'on connaît l'étymologie des termes grecs et lorsqu'on comprend ce que ça représentait socialement parlant à l'époque où ce terme-là va être utilisé. Lorsqu'on parle de connaître dans la Bible, lorsqu'on parle du verbe connaître dans les textes, non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, le terme connaître parle aussi de l'intimité entre un mari et son épouse, entre une épouse et son mari. Donc l'acte sexuel, l'acte intime dans un couple marié. Et cette connaissance-là, c'est cette union que la Bible va parler lorsque on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera au cœur de sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc il y a cette union qui vient dans le connaître son épouse ou dans le connaître son époux. Et lorsqu'on parle de connaître Dieu, de connaître le Seigneur, on parle aussi de cette union. Rappelons-nous, nous sommes partie prenante de l'Église. Et l'Église, qui est-elle? L'Église est la fiancée de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Donc, lorsque nous venons à la rencontre de Jésus, lorsque Jésus vient à notre rencontre, nous venons aussi à être unis à lui, comme l'épouse est unie à son époux et comme l'époux est uni à son épouse. Donc, lorsque Pierre va dire « Et nous avons connu » que tu es le Fils de Dieu, il parle aussi d'une connaissance dans le sens « nous sommes maintenant unis à toi ». Oui, cette unité-là va être mise au défi. Oui, cette unité va être secouée lorsque Jésus, quelque temps plus tard, va être arrêté et va être amené seul et va aller jusqu'à la croix. Mais dans le sens biblique du terme, il y a quand même cette union. Dans un couple, il arrive parfois que monsieur et madame soient en dispute, que monsieur et madame soient en froid, mais foncièrement, la Bible nous dit que personne ne vienne diviser, ne vienne séparer ce que Dieu a uni. Et nous, ça doit être la même chose pour nous, que rien ne vienne nous séparer de notre Seigneur, que rien ne vienne nous briser dans notre unité avec Christ. De surcroît à cela, lorsqu'on parle de connaître au sens biblique du couple, ben on parle aussi de l'intimité. Et Pierre est en train de dire, nous avons été tellement intimes avec toi, on a été tellement à même de te connaître d'une façon intime qu'on ne peut pas aller ailleurs. Et je prie que le Seigneur non seulement se révèle à toi, que tu l'expérimentes, que tu perçoives sa présence, que tu sois uni avec lui, mais de surcroît à cela que tu deviennes un ami. À un moment donné, Jésus va dire, voici, je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle des amis, parce que le disciple ne sait pas ce que son maître va faire, contrairement à l'ami. On parle de ce moment-là où l'Éternel arrive avec deux anges, l'ange de l'Éternel se présente devant Abraham et l'ange de l'Éternel dit à Abraham, lorsqu'il va s'apprêter à détruire Sodome et Gomorre, « Cacherai-je à mon ami Abraham ce que je m'apprête à faire? Cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? » Il est tellement intime, Abraham est tellement intime avec Dieu que Dieu ne peut pas lui cacher ses plans et sa volonté. Et l'intimité se développe. L'intimité, c'est quelque chose, c'est un processus qui croît, un processus qui grandit. Alors, je prie que toi aussi, tu sois un intime du Seigneur, que tu puisses croître dans cette intimité avec Dieu. Dernier terme pour ce soir, septième terme pour ce matin, connu dans le sens de participation. Connu dans le sens de participer à l'œuvre de Dieu. Lorsque Pierre va dire, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu, nous sommes partie prenante de ce que tu es en train de faire en tant que Christ, en tant que Fils de Dieu, en tant que Messie. Nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas connaître le Seigneur et rester les bras croisés à l'arrière comme simple observateur, comme simple badaud. Lorsque nous avons cru, lorsque nous connaissons le Seigneur, nous sommes propulsés, nous sommes poussés par le Seigneur vers l'action. Rester les bras croisés sur le bord du chemin, rester spectateur n'est aucunement, mais aucunement dans le plan de Dieu. Un disciple est un serviteur. Donc un serviteur ne peut pas simplement observer. Un serviteur disciple va apprendre, mais un serviteur se doit de servir. Quand on parle d'apprentissage, oui, on parle de recevoir la leçon, mais lorsqu'on parle d'expérimentation, on parle aussi de mise en expérience, que nous puissions prendre de l'expérience, que nous puissions être participants actifs à l'œuvre de Dieu. Alors, lorsque Pierre va dire « Seigneur, nous t'avons connu », il est en train de dire « Nous avons appris que tu es le Fils de Dieu ». Nous avons expérimenté, nous, en te voyant, en te côtoyant, que tu es le Fils de Dieu. Nous avons compris pleinement, par rapport à ce que tu fais, que tu es le Fils de Dieu. Nous l'avons senti, nous l'avons perçu, nous avons perçu la présence et l'onction et la grâce et la gloire de Dieu en toi. Nous nous sommes unis à toi, nous sommes tes disciples, nous nous sommes unis à toi. Nous avons été intimes avec toi. Nous t'avons côtoyé pendant ces 2-3 dernières années, pendant ton ministère ici-bas sur terre. Nous sommes unis et nous sommes intimes avec toi. On t'a vu nous parler, on a reçu des instructions précises de ta part. Nous sommes tes intimes et de surcroît à cela, Seigneur, nous sommes des participants à ton œuvre. Participant que Pierre a été majestueusement le jour de la Pentecôte. On s'arrête souvent au fait que Pierre a renié Jésus, que Pierre a sombré le jour de l'arrestation de Jésus. On parle de ce moment-là où Pierre marche sur les eaux puis se met à couler. Mais rappelons-nous, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit puissant de Dieu tombe sur les 12, sur les 120 qui sont là, le grand prédicateur de ce jour-là, c'est Pierre. C'est Pierre qui va avoir l'hardiesse d'être le premier participant public de l'histoire de l'Église contemporaine, de l'histoire de l'Église primitive. Alors, c'est un défi pour toi. Apprends ton Seigneur. Expérimente ton Seigneur, comprends mieux la pensée de ton Seigneur, perçois mieux sa présence, unis-toi à ton Seigneur, sois un intime du Seigneur et sois partie prenante, partie active, participant actif plutôt à l'œuvre du Seigneur. Alors c'était cela qu'on avait pour ce matin. J'espère que ça vous donne le boost nécessaire pour aujourd'hui, que ça vous donne les instructions pour aujourd'hui et que ce sera une source de bénédiction pour votre journée, mais aussi pour le restant de votre cheminement ici-bas sur terre. Alors permettez-moi de prier avec vous et après ça, simplement quelques petites annonces avant de vous laisser. Alors Seigneur, merci parce que nous aussi, nous t'avons connu. Merci Seigneur parce que tu nous amènes dans ce processus d'apprentissage et d'expérimentation et cette acquisition Seigneur d'une meilleure compréhension de ce que tu veux de nous et de ce que tu as pour nous Seigneur. Merci aussi Seigneur parce que tu nous permets de mieux déchiffrer, de mieux discerner plutôt ce qui est de toi, de ce qui n'est pas de toi, de ce qui est de toi, de ce qui est de tout esprit trompeur qui pourrait nous environner. Merci Seigneur de rendre ta présence perceptible ô Dieu. Merci Seigneur de nous permettre de percevoir ta présence, de la ressentir. Et je prie pour ma sœur et mon frère ce matin que de façon toute précise Seigneur, tu ouvres leurs oreilles, tu ouvres leurs yeux, tu ouvres leur sens Seigneur afin de percevoir de façon palpable, tangible, ta présence à leur côté. Cette présence qui rassure, cette présence qui convainc, cette présence qui donne une hardiesse comme jamais auparavant, pour l'avoir expérimenté, même dans les moments peut-être les plus difficiles de mon existence, je sais, Seigneur, combien percevoir cette ta présence change le cours d'une vie. Alors je prie, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour ma sœur et mon frère. Je prie qu'il soit uni à toi. Je prie qu'il soit intime dans ta présence, ô Dieu, avec toi, Seigneur. Je prie effectivement, Seigneur, qu'il puisse être lié à toi comme jamais auparavant, Seigneur. Et je prie qu'il prenne une part active, qu'il soit des participants actifs à l'avancement de ton royaume et à ton œuvre. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. J'appelle ta bénédiction sur mon frère. J'appelle ta bénédiction sur ma sœur. Nous avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, simplement, vous rappelez le message important du jour ou l'annonce importante du jour, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche. Si vous avez de 12 à 30 ans, on vous invite à être à l'assemblée jeunesse ce vendredi 19h30 dans les locaux même de l'église. Pas besoin d'inscription pour les 12 à 30 ans pour l'assemblée jeunesse. Toutefois, si vous avez 30 ans et plus, vous avez la possibilité de vous joindre à nous et d'être présent sur place dimanche pour notre culte de 10 heures. Donc, si vous voulez être là, vous devez avoir 30 ans et par la suite, vous nous appelez ou vous nous écrivez. Vous nous appelez au numéro de la boîte vocale de l'église au 514-273-8295, dans le 514-273-8295, ou vous nous écrivez à secrétariat-eajc@commercial.gmail.com. Je répète, secrétariat-eajc en un seul mot, @commercial.gmail.com. Vous nous donnez votre nom, vous nous donnez votre numéro de téléphone ou votre courriel par lesquels on peut vous rejoindre et confirmer ou non votre présence. Et vous nous donnez aussi le nom précis de toutes les personnes qui vous accompagnent. Donc, c'est simple. Vous écrivez, vous appelez, vous dites, voici, je m'appelle ta-ta-ta-ta. Mon numéro de téléphone est le ta-ta-ta-ta. Mon courriel est le ta-ta-ta-ta. Et je viens avec XXXXX personnes. Vous nous donnez leur nom. Et nous, demain, on appelle l'ensemble des inscrits pour confirmer. On a déjà commencé à confirmer la présence de certains. Donc, demain, c'est la date limite. L'heure limite, c'est après notre réunion vers 10 heures. Donc, après cette heure-là, on ne reçoit plus d'inscription. Mais d'ici là, appelez. Il y a encore de la place. On veut être un peu plus nombreux encore que dimanche dernier. On a été réjouis de voir tous ceux qui étaient là dimanche. On veut être un peu plus nombreux encore ce dimanche parce qu'on veut aller de progrès en progrès. Parce qu'on veut se réjouir. Vous nous manquez tous. Donc, on veut que vous soyez là. Donc, sur ce, c'est à peu près tout pour ce matin. Permettez-moi juste de saluer quelques personnes. Rapidement. Il est déjà 9h09. Donc, bonjour à Didier. Bonjour à Agnès qui nous regarde de la très, 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 très belle ville de Carcassonne. Une ville majestueuse. Et majestueuse est le bon terme parce qu'il y a un château à Carcassonne et une ville qui est fortifiée. Vous devez aller voir les photos. Donc, bonjour à Agnès. Bonjour à Marie-Huguette. Qui d'autre? Bonjour à Kevin. Bonjour à la sœur Samek, bonjour à Farley et à sa maman Marie-André. Bonjour à Weshi Love, c'est le pseudonyme, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Adriana, bonjour à Rosie de l'Alsace. Bonjour à Thérèse Marianne Calzada, qui nous regarde, je crois, de Pau. En France, dans le sud-ouest de la France, une belle région aussi. Bonjour à Diana, qui nous regarde de Longueuil. Bonjour à Adriana, on l'a déjà dit. Bonjour à Nadège Coimain. Bonjour à Denise de Saint-Adèle. Jonathan, ma belle-sœur, ma belle-mère qui est avec elle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? On a Zina Amazouz, que Dieu vous bénisse. Bienvenue parmi nous. On a Jude, que Dieu te bénisse. On a Yann-Charles Desjardins. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors sur ce, bonne journée à tous. On se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Et puis à tous ceux que j'ai pas pu nommer, sachez que vous êtes tous salués et que vous nous êtes très chers. Donc, n'oubliez pas les inscriptions. Faites-le tout de suite. Que Dieu vous bénisse.